Bonjour à tous. Le maître de cérémonie, c'est lui, danseur et chorégraphe, tendre et fantaisiste. Philippe de Coufflet va orchestrer les festivités de rentrée de Chaillot à Paris, intitulée « Tout doit disparaître ». Cette nouvelle création ouvrira la saison par une déambulation à la carte du Parvis aux Salles du Palais, à voir du 27 septembre jusqu'au 6 octobre. Puis, quelle part de nous brûle avec les forêts? Joël Zask s'intéresse au phénomène des méga-feux, catastrophes écologiques et symptômes, selon elle, d'une société malade. Quelle attention nouvelle à notre environnement est-il urgent de retrouver? Nous en parlerons donc avec la philosophe dans la deuxième partie de la Grande Table. Ce sera après le journal de Thomas Cluzel. Pour l'heure, bienvenue à tous sur France Culture.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et on vient d'apprendre la mort d'un grand de la photo, l'allemand Peter Lindbergh. Au tournant des années 90, une génération de top modèles est née dans son objectif. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatiana Patitz, Christy Turlington ou encore Cindy Crawford. Il a fait émerger de nouveaux visages. Il était pourtant critique envers l'industrie de la mode et ses standards de beauté tels que les journaux à cette époque-là en faisaient la promotion. On va écouter sa voix quand il racontait ses premières parutions dans le Vogue américain.
Il y a eu un moment où c'était très prestigieux de travailler pour un magazine qui s'appelle Vogue américain, qui était dans la Bible, peut-être toujours la Bible du magazine de mode. Et à cette époque-là, ils m'ont demandé souvent de travailler pour eux, et moi j'ai toujours dit non. Et à un moment, Alexander Lieberman, le chef de Vogue américain, m'a demandé de venir à New York pour lui parler pourquoi je ne travaille pas pour eux. Et moi, je lui ai dit, je ne pouvais pas travailler avec ces femmes qui, eux, ils photographiaient dans leur journal. Et pour moi, c'était une femme que j'aimais pas. C'était trop sophistiqué. Cette femme, elle vivre par l'extérieur, non? Et c'était les sacs, les voitures, le monde autour d'elle, c'est définir la femme. Et moi, j'ai dit non, parce que je ne peux pas travailler. Cette femme, je ne peux pas photographier parce que c'est une petite horreur de ça. Non. Et lui, il m'a dit, bon, prenez une rédactrice de chez nous et prenez des femmes qui vous aimez et montre-moi qu'est-ce que c'est. Et moi, j'ai fait ça, je suis parti à Los Angeles et j'ai pris, c'était déjà Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatiana était là. Et j'ai photographié ça avec les chemises blanches, toutes naturelles sur la plage. Et je suis venu à New York avec ces photos. Et tout le monde était choqué, ils savaient pas quoi faire avec. Je dis, mais ça, c'est les femmes que j'aime, non? Et 8 mois plus tard, c'est Anna Wintour qui est venue au Vogue américain, elle a vu les photos qui étaient dans la poubelle, non? Et qu'elle a dit, mon Dieu, je t'ai donné la couverture et 20 pages avec ça.
Voilà, Peter Lindbergh, un art du portrait en noir et blanc, empreint de douceur et un ardent défenseur aussi de la beauté naturelle des femmes. Peter Lindbergh, cité par Le Monde aujourd'hui et qui disait, avec Photoshop, on a fait des femmes, on a transformé les femmes en robots, comme si c'était un avantage de faire 1m80 et 45 kilos. Pour moi, cette norme signe la fin de la civilisation. Voilà, ces photographies publiées dans le Vogue, son journal, sont rassemblées dans divers beaux livres, dont le premier peut-être à retrouver Ten Women by Peter Lindbergh, paru en 96 et préfacé par l'autre Kaiser de la mode, disparu récemment, Karl Lagerfeld. Bonjour à vous, Philippe de Coufflet.
Bonjour.
Voilà, vous qui êtes un homme de couleur, le noir et blanc, quand même, quand c'est réussi, et ça l'était, dans la caméra, dans l'œil de Peter Lindbergh, c'est assez somptueux.
Ah oui, moi j'adore le noir et blanc, ouais. Ça permet de... Ben oui, il ne reste plus que les contrastes, et donc il y a une forme d'épure dans le noir et blanc qui est sublime.
À Chaillot, ça va être une explosion de couleurs, au contraire?
Alors, à Chaillot, ça va être... en tout cas, c'est un projet tout à fait merveilleux, fou, délirant. Alors, ça n'est pas une création, contrairement à ce que vous avez dit en ouverture. En fait, c'est une sorte d'événement qui a lieu une seule fois. On fait ça effectivement du 27 septembre au 6 octobre. C'est un spectacle qui ne tourne pas. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai réuni... L'idée, c'est d'utiliser tout le Palais de Chaillot. Donc il y a trois salles, la salle Villard, la salle Gémier, la salle Béjart, le grand foyer, les escaliers, toutes les circulations, le sous-foyer, les... Enfin, j'ai exploré l'ensemble des espaces du théâtre de la danse de Chaillot, et j'ai développé avec ma petite équipe, parce que tout ça est toujours un travail d'équipe, tout un tas de choses qui vont se passer partout. Donc on est entre le spectacle dit traditionnel et le spectacle immersif. Et là, l'idée, c'est de venir passer une soirée en notre compagnie, puisque vous pouvez boire, manger. La notion de, on a essayé d'ouvrir au maximum le temps et l'espace. Donc l'espace, ça a lieu dans toutes les salles, dans tous les espaces de Chaillot, et le temps, et ben, ça a lieu de l'ouverture du théâtre à la fermeture du théâtre.
Tout doit disparaître. À commencer par quoi, Philippe de Coufflet?
Il y a l'idée, en tout cas ça va. Je remonte pour ce spectacle un tas de spectacles que j'ai. Oh là là, dites donc, je suis meilleur danseur que speaker. Mais je remonte un tas de choses que j'ai faites à travers les années. Donc le plus vieux spectacle que je remonte à 35 ans. On n'a pas de vidéo notamment, donc c'est assez rigolo. Et je remonte toutes ces choses avec les danseurs d'origine. Ce qui fait qu'il va y avoir pas mal de cheveux blancs sur scène. Et ça correspond effectivement à un moment où je vais sûrement tourner une page, mais pour aller où, je ne sais pas encore très bien. Mais j'avais envie, après le décès de Christophe Saint-Lingros l'an dernier, après il y a eu un tas d'événements qui ont fait que pour moi aujourd'hui, il est temps de faire un espèce de revisiter tout ça pour mieux tourner la page.
Vous avez aussi, vous, aujourd'hui, Philippe de Coufflet, quelques cheveux blancs. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Vous le dites, vous allez piocher et présenter des extraits de spectacles phares de votre compagnie DCA depuis les premiers, 83, depuis Tranche de Cake en 84, Décodex 95, Shazam 98. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que du passé, vous ne faites pas table rase. Hein. Tout doit disparaître. C'est pas le sens que vous avez voulu donner à ce titre pour cette déambulation. Vous ne jetez rien, vous assumez tout, vous, de ce que vous avez créé. Vous êtes fier de ce parcours réalisé?
Est-ce que je suis... J'ai jeté des choses, puisque c'est une sélection, c'est une sorte de sélection, ce que je vais présenter là.
Oui, mais c'est une sélection pour faire ensemble, ou ce que vous avez jeté, c'est des choses que vous n'aimeriez plus revoir et que vous n'assumez plus aujourd'hui?
J'ai laissé ma mémoire sélective...
opérer toute seule.
Voilà. Donc je me suis pas trop posé de questions. J'ai essayé de retrouver des choses que j'avais envie de monter. Et puis on a fait quand même des grandes réunions avec tous les artistes qui ont travaillé dessus et qui sont, parce que là on est une centaine à travailler en ce moment sur ce projet. Donc il y a vraiment du monde. Et ensemble, j'ai laissé aussi les autres amener des idées. Tiens, on devrait reprendre ça. Donc on fait des essais. On voit si ça marche. On voit ce que ça donne. Mais est-ce que je renie des choses? Je sais pas. Je me pose pas trop ce genre de questions. Moi, j'avance. Je suis toujours à la recherche de formes nouvelles. Il y a toujours l'idée du plaisir, de prendre et de donner du plaisir, quand même, qui est importante. Je me pose pas trop ce genre de questions.
Vous dites que vous avancez tout en revisitant ce passé aussi. Comment comprendre aujourd'hui certains de ces gestes qui remontent à une époque plus insouciante, peut-être celle des années 80-90, celle des débuts? Ces pièces que vous allez revisiter, est-ce qu'elles sont compréhensibles et perceptibles de la même manière aujourd'hui?
Je pense que oui, parce que la danse, c'est un art assez magique pour ça. C'est un corps qui s'adresse à un autre corps, enfin, ou à des yeux, mais du coup, un corps. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, qui est intéressant et qui donc les modes changent, les manières de... Là, on voit par exemple qu'en ce moment, je remonte Tranche de Cake qui a 35 ans. Je n'ai pas de vidéo, ce qui n'aide pas à le remonter, mais on a un souvenir du type d'écriture, des influences qu'on avait à cette époque-là. Donc c'était très influencé par la danse moderne américaine, et il y avait cette volonté de développer un langage gestuel qui correspondent à tout ce que je voyais dans les autres arts à l'époque, dans la musique. On sortait du punk et il y avait cette nouvelle vague avec des musiques très dynamiques, très rock, très carrées, très colorées. Il y avait aussi la figuration libre, enfin un tas de mouvements en peinture où il y avait des choses très très fortes et très nouvelles. Et en danse, rien de tel. Donc j'avais vraiment le souhait d'essayer de créer quelque chose, de faire évoluer la forme artistique qui me touchait le plus vers une forme de modernité. Et c'est vrai que la modernité, c'est un truc qui évolue constamment. Et donc là, effectivement, ce qu'on a développé dans les années 80, ça correspond pas du tout à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, depuis pas mal de temps, il y a la non-dance qui est passée par là, et il y a une recherche d'épure, de simplifier le vocabulaire, d'aller à l'essentiel.
D'une certaine manière, on chorégraphie toujours l'époque aussi.
Ouais, absolument. Absolument. Mais donc, on voit, et ça, moi, je trouve ça intéressant à voir pour moi, mais pour un spectateur, j'imagine, l'évolution d'un vocabulaire, d'une écriture à travers les années en fonction de ce que nous dit l'air du temps.
Vous dites que vous n'avez pas gardé de vidéo de ces premières pièces, de ces premiers spectacles que vous avez montés. Aujourd'hui, on imagine que c'est le cas, c'est-à-dire que vous archivez vos nouvelles pièces. Hier, il n'y avait pas de brouillon, il n'y avait pas de croquis. Vous passez pas toujours par une phase écrite avant de monter ces pièces. Comment vous travaillez ?
D'abord, j'essaye de développer. Je suis quelqu'un qui aime bien chercher et qui aime se surprendre. Donc, je tente une nouvelle méthode à chaque fois. Donc, du coup, il n'y a pas de systématisme. Il est arrivé que j'écrive effectivement des chorégraphies en faisant des petits dessins. Mais d'abord, la danse, c'est compliqué à écrire. Il y a effectivement des systèmes de notation qui existent, mais qui sont extrêmement complexes. Enfin, je trouve, pour moi, c'est un peu trop compliqué. Et du coup, ça n'est pas très pratique. Et du coup, évidemment, ce qu'on utilise naturellement, c'est la vidéo qui est quand même très pratique, parce que c'est, même si ça refroidit tout, ça permet d'avoir une mémoire de ce qu'on fait et de la manière dont on le fait. Donc, ça s'écrit, c'est ce qui est d'ailleurs passionnant avec ce métier, ça s'écrit, c'est une écriture collective, et ce qui est le cahier de brouillon, le cahier de notes, c'est les danseurs. Donc chacun se souvient de sa partition, et on écrit sur les gens, avec les gens et sur les gens. Et donc c'est là que, en tout cas en ce qui me concerne, la création est très liée aux interprètes, aux artistes avec lesquels je travaille, parce que c'est un travail collectif et que je pense que je n'écrirai pas du tout les mêmes mouvements pour un danseur ou pour un autre. C'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. On est dans un travail commun et il s'agit de voir ce que tel corps m'inspire, ce que je peux en faire, comment ensemble on peut arriver à développer quelque chose qui nous satisfasse tous les deux, etc. Donc, c'est un travail qui se fait petit à petit, et il y a beaucoup de brouillon. On écrit, on réécrit beaucoup, 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 beaucoup. Il est très rare qu'on écrive une danse d'un jet comme ça et qu'elle reste. Moi, je repasse beaucoup de couches.
Et on sait que vous affectionnez, en tout cas vous êtes curieux de tous les corps. Il n'y a pas de corps type avec vous, hein, Philippe de Coufflet. Il y a des corps différents, des corps parfois entravés. Il y a toujours cette bizarrerie du mouvement que vous pouvez réinterpréter. On imagine aussi qu'à travers cette déambulation, vous rendrez hommage à vos figures tutélaires, que ce soit le chorégraphe Merce Cunningham. D'ailleurs, un hommage lui sera rendu à Chaillot toute cette saison, que ce soit au mime Isaac Alvarez ou à l'artiste circassienne Annie Fratellini, ou encore Monsieur Marceau, écoutons-le.
Le mime, si vous voulez, c'est une espèce de vocation, bien entendu. Et vous me demandiez tout à l'heure si c'était une frustration. Non, je pense que c'est un acte d'amour. Je crois qu'on entre mime comme on va dans les ordres. C'est une espèce de don, n'est-ce pas, de naissance, et il est certain que j'y étais prédisposé. Maintenant, je pourrais définir, si vous le voulez bien, l'art de la pantomime en le définissant de la manière suivante. C'est l'art de l'identification de l'être avec les éléments qui nous entourent, éléments liquides, poissons, personnages, au fond tout le monde extérieur que nous rendons interne et que nous recréons. C'est également l'art d'exprimer des sentiments par des attitudes et non pas des mots par des gestes.
Vous avez toujours agi de cette façon, vous n'avez jamais usé du verbe.
C'est-à-dire qu'au départ, j'étais élève de Charles Dullin et étant comédien, j'ai trouvé que la pantomime pouvait tout exprimer. Surtout que la pantomime cristallisait les situations extrêmes, la tragédie, la comédie, et plaçait l'homme dans des situations qui le rendaient vulnérable, qui le rendaient tragique ou comique. Mais avec cet art, il pouvait tout exprimer. C'est-à-dire, il pouvait exprimer les aspirations les plus profondes et les plus secrètes de l'être humain. C'est pour ça que j'ai choisi la pantomime.
1961, Philippe de Coufflet, le mime, la danse, le théâtre, le cirque, qu'est-ce qui relève chez vous de l'ordre de la vocation ?
Oh là, moi je pensais être, en tout cas, j'espérais être un artiste, mais je me voyais plutôt dessinateur de bande dessinée. Mais en tout cas, j'ai, lors de ma formation, j'ai étudié avec Marcel Marceau, j'ai étudié avec Annie Fratellini, j'ai étudié avec un tas de chorégraphes, donc j'ai un peu travaillé sur tous ces arts de la scène qui pour moi sont tout à fait complémentaires.
Vocation touche à tout.
Ouais, puis oui, c'est vrai que je suis pas spécialement, je me suis jamais considéré comme un chorégraphe très pointu, et donc c'est vrai que mon truc c'est plus de mélanger les arts pour donner à voir une forme spectaculaire. Aujourd'hui, j'appelle ça du théâtre parce que c'est une forme théâtrale.
Pourquoi décloisonner ? Qu'est-ce que la danse y gagne, ou qu'est-ce que le théâtre y gagne aussi à ne pas laisser chaque discipline occuper seule son espace ? En quoi ça permet de repenser les mouvements ?
Disons qu'en tout cas, moi, j'ai découvert et apprécié la danse dans les clubs, dans les boîtes de nuit. Et donc, je me suis rendu compte que cette danse de boîte était au moins aussi intéressante que la danse savante. Et du coup, il y a eu comme un besoin, c'était viscéral, de relier le profane et les choses plus pointues, enfin ce qui était considéré comme de l'art et ce qui était considéré comme du divertissement. Donc c'est plus un besoin, c'est instinctif.
Et vous écoutiez, paraît-il, David Bowie en dessinant quand vous étiez plus jeune. Vous lui rendrez hommage à Bowie et à son univers visuel autant qu'à sa musique qui vous ont marqué avec un concert performance que vous aviez imaginé en 2016. France Culture, il est midi 18. Stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. To park the car, we must find parking, or spend the day on the freeway. Stay in your lane, it's what you want, and yes, I approve. If I run out of gas, you'll be my excuse. First generations, assimilations, you wear it well, and no one can tell, no one can tell. She won't take my call when I am tipsy, 'cause she's on the wagon, dressed like a gypsy. Do like the Romans, pop melatonin, falling asleep, blame it on me. Stay in your lane, stack on the clay, pile up the rocks, high off the ground, chisel it down. To park the car, we must find parking on the freeway. Stay in your Vous avez reconnu Philippe de Coufflet ?
Ouais, Iggy Pop.
Ouais, exactement. Avec quand même une bonne ressemblance avec votre David Bowie à vous. Hein. David Bowie dernière.
C'est pas mon David
période.
Bowie. Il se trouve que qu'il y a une expo Bowie avant le décès avant son décès qui a fait le tour du monde, qui est passé à Paris. Et voilà, on m'avait proposé de faire un spectacle lié à cette exposition. Et c'est vrai que je me suis bien amusé à remonter, parce que Bowie a créé un nombre de tubes quand même impressionnant, et à monter un concert spectacle. Ma culture, c'est en grande partie le rock'n'roll, donc j'étais très heureux de pouvoir mettre en scène un concert.
Iggy Pop, extrait de Free, le nouvel album de Iggy, attendu ce vendredi.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Grâce à vos danseurs, musiciens, acrobates, Philippe de Coufflet-Chaillot va se dévoiler, se raconter. Mais vous, quelle est votre histoire avec ce lieu, avec Chaillot, ce théâtre ? Il a accueilli plusieurs de vos créations depuis plusieurs pièces, depuis un moment. Qu'est-ce que vous aviez envie de révéler aussi de ce lieu ? Comment vous aviez envie de l'habiter ?
Oula, c'est vrai que la compagnie joue depuis longtemps à Chaillot. J'avais suivi Ariel Goldenberg quand il était directeur de la MC 93 à Bobigny, puis il avait migré à Chaillot, donc je l'ai suivi. C'est un théâtre assez étrange, Chaillot, hein, parce que donc c'est sur cette place dans le 16e. Oui, ça doit être ça, le 16e arrondissement. Donc on est quand même dans les beaux quartiers, face à la tour Eiffel, avec cette grande esplanade devant. C'est très impressionnant. Il y a un couple de mariés qui vient se faire prendre en photo toutes les 7 minutes à peu près. Il y a une activité, une densité, il y a un nombre de touristes très très impressionnant. Donc c'est déjà un lieu très étrange. Après, il y a un truc historique. Jean Villard, d'ailleurs il y a sa statue quand on rentre, qui a fait le TNP là. Il y a historique. Historiquement, c'est chargé. C'est une salle, la grande salle Villard n'est pas une salle facile. On est sous terre, on est vraiment sous terre, et tout le théâtre est sous terre. Donc c'est une boîte noire, bien noire. Mais il y a ce hall, une architecture assez étrange, début du siècle, là, très, très impressionnante, très grandiloquente. Et puis ces baies vitrées gigantesques sur la tour Eiffel, donc il y a quelque chose de très prestigieux. C'est assez merveilleux d'avoir fait un théâtre qui aujourd'hui est consacré essentiellement à la danse dans un lieu pareil. Moi, ça faisait un moment que j'avais... Il se trouve que c'est là, aujourd'hui, que j'ai la chance de pouvoir jouer, que le théâtre de Chaillot coproduit mes spectacles, mes tentatives spectaculaires.
Vos découfleuries, comme on dit.
Voilà, et après avoir fait au moins une dizaine de spectacles différents dans cette grande salle, j'avais envie d'aborder l'espace d'une autre manière. J'ai vu des spectacles immersifs depuis quelques années, et je suis assez tenté par ce genre, et j'avais envie de proposer quelque chose qui soit plus de l'ordre de la soirée, de l'idée de venir passer une soirée avec des artistes, au milieu des artistes, et de se dire, on peut regarder une forme très complexe, spectaculaire, pointue, avec du film, de la musique live dans la grande salle, et puis ensuite aller voir un danseur de près, à un mètre, pour regarder exactement comment il bouge, ce qu'il fait. On peut aller écouter un musicien dans un coin, on peut aller jouer avec les machines optiques que j'ai développées depuis toutes ces années.
Alors arrêtons-nous un moment juste sur ces machines-là, sur ces opticônes, ces jeux d'optique et de mouvement aussi qu'on pourra voir à Chaillot, ces installations Kaleidoscopique, avec une référence aussi au burlesque, au jeu, au divertissement et au surréalisme. Man Ray, qui est l'un des rares artistes photographes du surréalisme, a lui développé toute une gamme d'expériences lumineuses. Il y a eu ces solarisations, il y a eu ces rayographies. On va juste l'écouter définir ce terme. C'était dans un entretien réalisé avec Michel Fournier.
Quand je faisais mes tirages, j'ai interposé un morceau de papier sensible à la lumière, j'exposais pour placer des objets sur ce papier, j'exposais à la lumière.
Quel objet, par exemple?
Oh, n'importe quoi que je trouvais à la portée de la main, un morceau de coton, un entonnoir, un thermomètre,
une boîte d'allumettes
déchirée, même des morceaux de papier déchirés que j'ai éparpillés. C'était tout dans l'esprit Dada, si vous voulez. Et j'ai posé ça sur les feuilles sensibles, j'ai exposé à la lumière pour quelques secondes, et quand je le développais, j'avais une image, et pas seulement noir et blanc, mais suivant le contact de ces morceaux avec le papier ou plus ou moins éloigné, ça donnait des grisailles, des blancs, des noirs, presque un effet de trois dimensions.
Et c'était en somme une photographie faite sans appareil de photographie.
Sans appareil, comme un éditeur m'a dit une fois, je ne peux pas reproduire aux créographes parce qu'ils ne sont pas faits avec un appareil. Alors je dis, mais si un écrivain vous apporte un manuscrit qui n'est pas écrit à la machine, ce n'est plus la littérature, non ?
Man Ray, interrogé par Michel Tournier en 1961, évoquant aussi l'importance de ces jeux de lumière, il a aussi cette très jolie formule dans cet entretien. Il dit, quand on répète une chose, ce n'est plus le hasard. Vous aimez, vous, cette idée de répétition, cette idée que toute répétition est au fond, à sa manière aussi, une variation ?
Ça, c'est sûr. Bah, c'est ce qui est heureusement, dans un sens, parce que je fais un métier où on répète beaucoup. Donc, du coup, ça reste passionnant, puisqu'on ne fait pas deux fois la même chose. Donc, oui, c'est passionnant. Sur Man Ray, je voulais juste signaler que dans mes machines optiques, il y en a une qui est un hommage à Man Ray, et qui joue avec ce mélange de positif et de négatif qu'utilisait Man Ray. Et donc là, par exemple, c'est un dispositif dans lequel vous êtes invité, le spectateur est invité à se positionner face à une caméra, et on crée en direct un jeu d'images positives et négatives du visage du spectateur, et ça fait parfois des images absolument splendides. Donc c'est des très beaux procédés qu'on peut aujourd'hui, avec les moyens que permet la vidéo et le live, qu'on peut développer et rendre vivant. Voilà.
Tout doit disparaître, Philippe de Coufflet, mais pas les artifices. Les artifices, ils restent incontournables pour vous, pour aller à l'essentiel. Il faut toujours en passer par les artifices pour retrouver le cœur des choses.
Pas forcément, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance beaucoup à m'intéresser aux artifices, ouais. Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Curiosité, intérêt, goût du mélange des arts, du mélange des gens. Je trouve toujours intéressant de créer des éléments de décalage, de faire en sorte que... c'est difficile à expliquer.
Vous projetez des images, Philippe de Coufflet, à Chaillot ou ailleurs. Est-ce que vous vous projetez aussi dans l'avenir ? Votre compagnie a 35 ans maintenant, il y a de longs compagnonnages avec certains danseurs, artistes qu'on retrouvera à cette occasion. Pour Tout doit disparaître, vous l'évoquiez. Est-ce que vous vous demandez où vous avez envie de la mener, cette compagnie, dans les 30 prochaines années, et vers où vous avez envie d'aller ?
En tout cas, si je monte cette énorme production qui s'appelle Tout doit disparaître, avec la plupart des artistes importants avec lesquels j'ai bossé dans ma troupe depuis effectivement 35 ans, c'est par désir, par envie de tourner une page, d'aller ailleurs et de clore une période pour en ouvrir une autre. Mais j'attends de vivre cette expérience jusqu'au bout pour savoir où elle va me mener. Donc, on verra chaque chose en son temps.
Ouais, pour l'instant, c'est de l'ordre du ressenti. L'envie d'aller voir ailleurs.
Oui, et puis l'envie de faire.
La feuille de route, elle est pas là.
Ouais. Faire partager une fête. Il y a l'idée d'une grande fête et d'un moment de bonheur, de plaisir. Donc, j'espère qu'il y aura du monde
pour aller faire la fête ensemble avec vous. On rappelle donc les dates de ce Tout doit disparaître, parce que tout est amené à renaître un jour ou l'autre, Philippe de Coufflet. Ce sera au Palais de Chaillot à partir du 26 septembre, si ma mémoire est bonne.
Yes.
Voilà. Hein, et ça ne tournera pas. Donc, il faut passer par Paris si on va avoir le plaisir de vous y voir. Merci beaucoup à vous.
Merci.